Bonjour, c'est Laurent Deboeuf, animateur, disque jockey sur Classique 21 et accessoirement musicien, guitariste.
Classique 21, Close to You, un podcast signé Dominique Dricot.
Bonjour Laurent.
Bonjour Dominique.
Alors, cette passion pour la musique, elle remonte à quand? T'as été influencé par tes parents, par ton éducation?
Tout à fait. Ça vient véritablement de l'enfance. Peut-être plus du côté de ma maman que du côté de mon papa, parce que mon papa n'a jamais vraiment été un mélomane, contrairement à ma maman qui, à l'époque où j'étais petit, toutes les semaines passait chez le disquaire, et en plus la radio qui fonctionnait tout le temps, que ce soit en voiture, à la maison, ça pouvait aller des chaînes de la RTBF à RTL aussi, des émissions comme les Grosses Têtes, etc. Moi, j'ai grandi avec ça. Et puis, toutes les voix de la RTBF, Claude Delacroix, Jean-Pierre Rottier. Enfin, voilà, toutes ces grandes voix qui nous ont bercés. Et puis, les voix féminines aussi. Je repense à des animatrices comme Soda, comme Martine Matagne. Et puis, la fibre musicale a aussi été développée un petit peu grâce à mon oncle, parce qu'on a très peu d'années d'écart entre lui et moi, donc on a juste 11 ans de différence. Donc quand j'étais gamin, je passais beaucoup de temps avec lui dans sa chambre, et là c'était les disques de Queen, les disques des Who, de Led Zeppelin qui passaient, et donc c'est toutes des choses avec lesquelles j'ai véritablement grandi. Je pense que Queen, ça c'est vraiment le premier groupe que j'ai découvert grâce à mon oncle. J'avais 5 ans, c'était l'album News of the World.
Excellent.
Et j'étais fasciné par la pochette avec ce robot où je voyais qu'il prenait les musiciens en main avec des gouttes de sang. Et je dis, mais pourquoi est-ce qu'il leur fait mal? Mais bon, voilà, ça c'était un petit peu l'innocence de l'enfance.
Bien sûr, mais c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'à 5 ans, tu étais déjà baigné par du genre Queen, etc.
Oui, tout à fait. Ouais.
Wow. Et alors, et à quel moment tu t'es décidé à apprendre à jouer la guitare?
Alors ça, c'est venu bien plus tard. Et encore une fois, c'est aussi une influence de mon oncle. Parce que mon oncle a été batteur. Moi, je devais avoir 7-8 ans. Donc lui, il en avait 17, 18, 19, plus ou moins à ce moment-là. Et j'avais été voir un concert. Et il y avait une guitare qui traînait backstage. Et pendant que le groupe jouait, le petit bonhomme que j'étais, j'avais pris la guitare, c'était une Strat, je ne sais pas si c'était vraiment une Fender, je me l'étais mise autour du cou et je m'étais mis derrière les musiciens en faisant semblant de jouer. Bon voilà, c'est un petit souvenir rigolo. Et en fait, grosso modo 16-17 ans, j'avais économisé de l'argent pour m'acheter une mobylette. Et puis je passe devant un magasin du quartier où ils vendaient un petit package, donc avec une guitare, un ampli. C'était exactement le même montant que la mobylette sur laquelle je lorgnais. Et donc j'ai acheté cette guitare avec cet ampli. J'avais demandé à mes parents, ma mère m'a dit « écoute, c'est ton argent, tu fais ce que tu veux avec ». Et donc j'ai jamais eu de mobylette, tant mieux, quelque part, peut-être.
Oui, tant mieux. Moi. Tant mieux pour nous, en tout cas, oui. Et donc, tu as appris toi-même, par toi-même, ou tu es allé à l'académie?
J'ai commencé tout seul. Et puis, à un moment donné, on tourne en rond. Et donc, j'ai voulu évoluer. J'ai pris des cours de guitare avec un guitariste belge qui s'appelle Thierry Limlet et qui a notamment joué avec Such a Noise dans les années 90. Et entre-temps, c'est devenu aussi un ami maintenant depuis 30 ans. Et on joue ensemble parce qu'il est guitariste depuis aussi les années 90 de Vacation, qui est un des plus vieux groupe de rock belge. Évidemment, le line-up original n'a plus rien à voir, mais dans les années 90, donc, Thierry en était le guitariste avec le nouveau chanteur de l'époque qui s'appelle Fabrice Carloni. Et il signe pour les 50 ans du groupe, donc en 2019, ils ont refait un album live. Ils ont envisagé de faire un nouvel album et de rajouter une guitare en plus. Thierry m'a téléphoné, il m'a proposé ça et je lui ai dit « Ah bah oui, bien volontiers, ça me ferait super plaisir ». Et donc voilà, on a fait cet album qui est sorti en 2020, qui s'appelle « Stay Online ». Malheureusement, c'est vrai que la période Covid nous a un petit peu handicapés. Donc, mais c'est pas grave, ici on a quand même encore des dates, on a encore des idées, donc il est très fort possible qu'on refasse encore un album. Mais bon voilà, je vais pas trop m'avancer. Voilà.
Petite parenthèse par rapport à la maman, elle a eu l'occasion de te voir comme musicien, elle est devenue une groupie.
Ah bah oui, évidemment, oui, plusieurs fois.
En tant que maman.
Ah bah évidemment, oui, plusieurs fois. Ça a longtemps été avec un groupe de reprises généralistes qui s'appelait Don't Stop. On a même été jouer dans le village où elle habite plusieurs fois. On jouait dans une taverne, c'était à Herbemont, une taverne qui s'appelait Les Randonneurs. On a joué 3-4 fois là. Alors évidemment, là, autant vous dire que la maman était là, bien entendu, avec tous les amis, la famille, les cousins, etc.
Waouh. ça fait plaisir, en effet. Alors, j'ai cru comprendre aussi que, bon, en tant que musicien, tu es aussi passionné par l'histoire de la guitare et les différents types.
Oui, tout à fait.
Comment tu t'es documenté?
Ben, c'est...
Et déjà, comment elle est venue, cette passion?
Ben, l'instrument m'a toujours fasciné. Les instruments de musique, en général, m'ont toujours fasciné. La guitare, évidemment, ben, comme c'était mon instrument de prédilection, c'est ce qui m'a intéressé le plus. Et j'ai lu, et je lis encore, beaucoup de littérature sur le sujet, des magazines que je garde en plus. Donc, depuis le début des années 90, je me suis abonné à des magazines français comme Guitariste et Bass Magazine, Guitar Part, etc. Et tous ces numéros, je les ai conservés. Donc j'en ai des tonnes que je ne sais parfois plus où les mettre, mais ça reste de la documentation précieuse, parce que justement, quand je me pose des questions, quand j'ai envie de parler de l'un ou l'autre guitariste ou d'une guitare emblématique, ben, ces bouquins sont là, avec en plus, bon, on a de la chance maintenant avec Internet, on peut aussi trouver plein de choses. Hein, donc voilà.
Petite question comme ça, rigolote. Donc quand tu vois, c'était très à la mode dans les années 60-70, des guitaristes célèbres qui cassent leur matériel, ça te fait mal alors
hein? Oui, ça me faisait mal. Peut-être moi au début, parce qu'avec le temps j'ai compris qu'il y avait aussi des endorsements entre certains guitaristes et certaines marques de guitare, et donc certaines marques leur fournissent des guitares pour les tourner. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on pense notamment à Pete Townshend, qui avait bien bousillé ses guitares.
Ou Jimi Hendrix.
Jimi Hendrix aussi. Mais Jimi Hendrix, là, c'est encore différent, parce que lui, à l'époque où il jouait, les guitares étaient avant tout des outils. Donc pour lui, utiliser une telle ou une telle, ça n'avait pas vraiment de signification. On ne parlait pas encore de guitare vintage à des prix mirobolants.
Bien. Tu as des héros parmi les guitaristes?
Absolument. Celui que je pointerai en premier, c'est Steve Ray Vaughan, parce que j'adore le blues. Et c'est un des derniers bluesmen qui a véritablement fait bouger les choses sur cette scène, malheureusement parti trop vite. Et alors, il y a Eddie Van Halen. Eddie Van Halen qui, pour moi, après Jimi Hendrix, est celui qui a révolutionné le plus la guitare électrique. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, voilà, c'est mon choix, moi.
Donc tu écoutes Beat It en boucle?
Pas forcément Beat It, mais je suis plus fan du premier album de Van Halen. Celui-là, par contre, il a tourné dans ma chambre aussi. Quand j'étais ado, mes parents ont encore une tête comme ça. Hein,
Question du mec qui n'y connaît rien, c'est-à-dire moi. Est-ce qu'on peut continuer à progresser toute sa vie à jouer de la guitare, à faire des accords que tu ne réussissais pas il y a 5 ans peut-être, et à force de travail, on y arrive?
Bien sûr. Oui. Et c'est souvent en se laissant aller qu'on finit à arriver à faire quelque chose qu'on essaye de faire depuis des années. Quand on y réfléchit trop, on reste coincé, ça ne suit pas, ça ne coule pas naturellement, et puis un jour on le fait sans y penser, on se dit « ah ben voilà, ça y est ». Oui, bien sûr. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'on a, si on n'a plus rien à apprendre, au bout d'un moment, je pense qu'on s'ennuie. Ce n'est pas mon cas. Donc, je parlais d'Eddie Van Halen, je suis loin de l'égaler. Je ne cherche pas non plus à l'égaler, ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de me faire plaisir et de développer mon jeu personnel. Mais oui, ça continue. Il y a plein de choses qui m'intéressent encore.
Tu continues à t'entraîner, entre guillemets, beaucoup?
Tout à fait. Il y a des choses qui demandent plus d'entraînement, d'autres qui sont plus faciles. Mais oui, je le fais et je joue parfois même n'importe quoi. Hein. Et quand je prends une guitare, j'oublie le temps. Donc, je me mets à jouer et puis je regarde ma montre. Ça fait 3 heures. Je dis, oh, je vais peut-être faire autre chose. Je vais peut-être parler un peu avec ma compagne parce qu'elle est là aussi. Donc voilà quoi.
Bien. Tu joues dans un groupe qui s'appelle Hygiaphone.
Oui.
Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'en discuter avec Jean-Louis Aubert ou...
Oui.
Oui. Ou Louis Bertignac?
Les deux. Les deux, parce que le premier, ça a été Jean-Louis Aubert. Et c'était lors d'un showcase. Il était venu ici à Classique 21 où il avait fait un showcase piano-voix et il avait même été interviewé par Éric Laforge. Et j'étais venu avec l'ancien chanteur d'Hygiaphone qui s'appelait Marc Isiella, qui a le même âge d'ailleurs que Jean-Louis Aubert. Et on était venu assister aux répétitions et on le regardait donc backstage. Et au moment où il a terminé son soundcheck, c'est lui-même qui est venu vers nous. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'il est arrivé vers nous en nous disant « Salut les jeunes !» Alors que Marc a le même âge que lui. Quoi. Maintenant, Marc a arrêté parce que c'est devenu un grand-papa qui a beaucoup à faire avec ses petits-enfants et donc il n'avait plus le temps. Et ici, on a un nouveau chanteur qui s'appelle Ludo Carlier depuis 3 ans maintenant et avec qui ça se passe super bien. C'est, même au niveau amical, c'est un très chouette gars.
Alors, je reviens quand même, parce que ce n'est pas banal. Hein. Jean-Louis Aubert ou Louis Bertignac, qui est aussi un remarquable guitariste.
Oui, oui.
Vous avez discuté de quoi ? Ils vous ont écouté ? Vous avez parlé de quoi ?
Ben, on lui a remis l'album et on lui a demandé si ça ne l'embêtait pas qu'on fasse les reprises. Il a dit, du moment que vous respectez les morceaux, non. Au contraire, on est même flatté. Parce que ben, c'est, ouais, ils sont contents qu'on reprenne leur musique. Et avec Louis Bertignac, là, c'était lors d'un passage ici aussi. C'était, je ne sais plus le nom de l'album, mais il y a quelques années, et donc j'avais eu la chance de pouvoir faire son interview, et c'est assez amusant parce qu'il est d'une simplicité mais absolument incroyable, et lorsqu'on a commencé à parler tous les deux, c'est comme si on se connaissait depuis des années, alors qu'on ne se connaissait pas du tout, mais c'est vraiment quelqu'un de sympathique, quoi. Il ne se prend pas du tout la tête une minute, et c'est pareil, donc ça a été on a pas mal parlé de guitare, hein, parce qu'il venait d'acheter une nouvelle guitare, c'était les débuts de la tournée des Insus, et il venait d'acheter une Gibson ES-330 35 pour attaquer cette tournée. Donc on a parlé de ça. On a parlé de vapote aussi parce qu'on est tous les deux fumeurs. Lui, il s'était mis à la vapote et donc on a parlé un petit peu de ça, mais c'était rigolo.
Vous avez parlé aussi de Carla Bruni ?
On n'a pas parlé de Carla Bruni, non, pas du tout.
C'était juste pour te taquiner. Bien, si j'ai la possibilité d'un coup de baguette magique de t'emmener sur un concert mythique,
ouais,
dans une salle mythique,
ouais,
tu choisis quoi d'aller à Wembley, de te produire à Wembley, d'être à Woodstock ou ailleurs.
Ah, d'assister au festival de Woodstock.
De jouer, monsieur.
Ah,
j'ai tous les pouvoirs. Hein.
Oui, le festival de Wembley, ça serait pas mal. Mais pas avec un groupe de cover, alors. Alors avec
qui ?
Avec Vacation, pourquoi pas.
Je pensais que tu allais dire Queen, mais non.
Ah oui, Queen. Oui, mais non, parce que là, franchement, j'aurais été vraiment gêné de me retrouver avec ces musiciens qui n'ont besoin de personne pour faire ce qu'ils font. Hein, donc voilà.
Justement, c'est un petit regret peut-être de ne pas être musicien professionnel ou pas du tout ?
Non, je fais ce qui me plaît, j'ai la chance de pouvoir faire ça et je n'en vis pas, mais le métier que j'ai la chance de faire est quand même très étroitement lié au milieu de la musique. Donc non, je suis véritablement heureux de faire ce métier d'animateur radio et de travailler dans une équipe comme celle de Classique 21, parce que ça, c'est une chance incroyable. C'est une ambiance véritablement familiale. On est entre passionnés et on aime partager cette passion entre nous aussi, pas qu'avec les auditeurs. Ah non, non, franchement, si on me repropose de retravailler ici à Classique 21, je resigne à demain sans problème.
Ben, j'imagine bien. Alors, parlons justement de ce métier. Comment t'es venu à un moment à la radio ?
Eh bien, c'est venu assez bizarrement parce que j'avais d'abord suivi un parcours de commercial. J'ai travaillé d'abord 3 années comme indépendant où je vendais des photocopieurs. Ensuite, je suis revenu comme employé salarié où là, j'ai travaillé pour une grande enseigne de sécurité qui commence par un G et qui finit par un 4. Et j'ai vendu des systèmes...
T'étais vigile ?
Pas du tout. Non, non, non. J'étais commercial. Je vendais des systèmes d'alarme. Donc, j'allais chez les gens, c'était bien souvent le soir, hein, puisque les gens travaillent la journée. Et puis, donc, j'ai fait ça pendant 6 ans et j'ai eu, à un moment donné, des problèmes de santé. En fait, j'ai eu une sclérose en plaques, ça ne me gêne pas du tout d'en parler, je le vis très très bien maintenant. Ça fait pas encore 20 ans, mais presque, c'était en 2006. Seulement, cette enseigne, au moment où je leur ai dévoilé donc, ce souci de santé, puisque j'ai quand même été absent pendant 1 mois suite à la première poussée, ils m'ont gentiment remercié. Donc, c'est vrai que je l'ai trouvé un petit peu mauvaise sur le moment même, mais je me suis dit, c'est pas plus mal finalement, parce que comme ça, maintenant, je vais pouvoir faire ce que j'aime. J'avais peut-être pas mis le bon costume au début. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas essayer animateur radio ? C'était un rêve de gamin. Ouais, j'avais fait un petit peu ça avec un copain d'école quand on avait 10-11 ans sur une radio locale. J'habitais à Wavre, c'était une radio locale qui s'appelait Radio Edelweiss. Et j'avais fait 1 ou 2 émissions avec lui. Il avait une émission le dimanche soir. Mais je devais rentrer tôt parce que le lendemain, il y avait école. Et puis, je me suis dit, allez, on va essayer. J'ai d'abord commencé sur une radio locale qui s'appelait Vivante FM. Ça se trouvait du côté d'Estine, où là, j'ai animé pendant 2 ans. Et en même temps, j'ai entamé une formation d'animateur technicien radio dans une ASBL qui s'appelle Perspective. C'était à Flémalle. C'est comme une année scolaire. Donc, tous les matins, je partais à Flémalle, suivre ma journée de cours. Grâce à ça, j'ai dû trouver des stages. Je me suis présenté au centre Perex, qui m'ont pris comme stagiaire. Et puis, ils m'ont dit, c'est vrai que tu as une voix intéressante. Donc, est-ce que ça t'intéresse d'être pigiste ? J'ai accepté. Mais suite à cela, donc à la fin de cette année scolaire, on va dire, le mois de juillet qui a suivi, il y avait eu un concert de Simple Minds à Ciné avec Machiavel en première partie. Et donc, j'ai été trouvé Marc, qui était évidemment le directeur de Classique 21 à ce moment-là. Et je lui ai dit, voilà, mon rêve, moi, c'est de travailler dans votre équipe. Et donc, il m'a dit, j'ai déjà entendu ta voix. Effectivement, c'est pas mal. Je te propose de contacter Étienne Dombray. Il te donnera un rendez-vous pour faire un essai. Donc, le soir même, je suis rentré du concert. Il était 3h du matin. J'ai fait un mail que j'ai envoyé à Étienne Dombray.
Il a répondu tout de suite, je parie.
Il n'a pas répondu tout de suite. C'est vrai qu'il
ça
aurait
m'étonne
pu.
De lui.
Non, il n'a pas répondu tout de suite. Mais il m'a donné rendez-vous. J'ai fait, j'ai fait quelques petits essais. Et directement, j'ai pu intégrer l'équipe de pigistes de Classique 21. Et puis, on m'a très vite proposé un contrat aussi, donc pour à ce moment-là, c'était reprendre l'émission Back Home du dimanche soir. Et de fil en aiguille, tout ça s'est fait. Je suis repassé après Pierre Guyot quand il a pris sa retraite pour reprendre sa tranche horaire, qui est devenue maintenant Classique 21 Underground, donc du mardi au jeudi de 21h à 23h. Et puis maintenant, ici, Soundtrack depuis un an. Travail d'équipe, là encore, je remercie tous ceux qui m'entourent, d'ailleurs Laurent Riepi, Dominique Raguet, Walter de Padua. Voilà, c'est des gars avec qui on s'entend super bien, on aime partager encore une fois cette passion, et bien sûr Étienne Dombray qui m'a permis de faire ça, puisque c'est Étienne qui est producteur de l'émission.
C'était difficile à assumer au début, Soundtrack, ou c'est venu tout à fait naturellement?
J'avais un petit peu les foies quand même, parce que c'était quand même passé après une icône de la radio. Et je me dis, est-ce que ça va aller? Donc j'ai demandé à Étienne qu'il me laisse un petit moment de réflexion, mais ça a été relativement vite parce que le lendemain, je lui ai dit, je vais le faire, ça passe ou ça casse. Si je n'essaye pas, je vais regretter de ne pas avoir essayé. Et jusqu'à présent, encore une fois, je suis heureux. Tout se passe bien.
Alors, en résumé, tu bosses le soir du mardi au jeudi inclus.
Oui.
Le dimanche matin,
oui.
Ça représente tout ça un gros, gros boulot de préparation.
Ça représente un boulot de préparation, mais qui est passionnant. Parce que même si je ne travaillais pas, tous les sujets qu'on développe, que ce soit dans Underground, peut-être plus encore ici pour Soundtrack, parce que mon domaine de prédilection a toujours été le classic rock. L'underground, je me suis mis à m'y intéresser quand on m'a proposé de changer l'émission de We Will Rock You en Classic 21 Underground. Et donc, je découvre encore beaucoup de choses. Et c'est ça qui est passionnant. Et beaucoup de groupes m'envoient des albums. Et il faut quand même se rendre compte, mais en Wallonie, on a véritablement des très très bons musiciens et de très bons groupes. Et donc, c'est aussi notre rôle de les mettre en avant, ce que je fais avec énormément de plaisir parce qu'il y a vraiment de très 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 bonnes choses.
Justement, est-ce que c'est parfois pas un petit peu injuste de voir à quel point il y a une grande qualité chez beaucoup de musiciens?
Oui.
Et s'ils étaient anglais ou américains, ils exploseraient peut-être.
Oui, ça, évidemment, c'est vrai qu'en Belgique, on n'est peut-être pas les mieux lotis quand on fait de la musique. Maintenant, qui suis-je pour dire comment les choses devraient se passer? J'ai bien mon petit avis aussi, mais c'est quand même dommage que parfois certains artistes, pour pouvoir évoluer, doivent signer avec des labels français ou voire même des labels allemands. Donc, les personnes qui en sont responsables, si elles peuvent entendre ce petit message, ça serait pas mal de vous intéresser à nous et se dire, voilà, vous savez, on existe et il y a moyen de faire des choses intéressantes. Enfin, quand je dis nous, je parle plutôt pour les autres. Hein. On n'a rien à envier aux autres. Un petit coup de main, les aider à les mettre en avant, ça ne serait pas plus mal. Quoi.
Dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
Je ne sais pas.
De continuer.
De continuer, oui, tout simplement. Franchement, moi, si je continue comme ça, c'est du bonheur. Hein. Et même... même à la radio, hein, donc continuer jusqu'à 80 ans, moi ça ne me dérange pas du tout, ça me plairait, ça me plairait justement.
Je propose qu'on se fixe rendez-vous dans 20 ans.
Allez.
Pour les 40 ans de Classique 21.
D'accord, Dominique.
Merci.
Classique 21, Close to You. Un podcast signé Dominique Dricot.
Découvrez d'autres podcasts bien rock'n'roll sur classique21.be.